Valeur HI 203 et 209, Histoire médiévale. Quatrième cassette, première face, présentée par Monsieur Neveu.
La leçon est consacrée aujourd'hui à l'avènement des Carolingiens, de Charles Martel à Charlemagne. La dynastie carolingienne va régner à peu près aussi longtemps que la dynastie mérovingienne qui l'a précédée. De 750 à 987 environ. Pourtant, l'empreinte que laisseront les Carolingiens sur l'Occident chrétien sera beaucoup plus forte, aussi bien dans le souvenir collectif, avec le personnage de Charlemagne en particulier, que dans la réalité des faits, puisque cette période est à l'origine des États modernes. Cette période relativement courte se subdivise cependant en plusieurs étapes, et nous étudierons aujourd'hui premièrement l'établissement de la nouvelle dynastie et deuxièmement le règne de Charlemagne. Première partie par conséquent, l'établissement de la nouvelle dynastie. En 714, nous le savons, meurt Pépin de Herstal et sans héritier direct. L'unité qu'il avait réalisée en tant que maire du palais est sur le point de disparaître. En particulier, les Neustriens se révoltent. Mais l'un de ces bâtards, Charles, qu'on appellera plus tard Martel, va rétablir la situation prépondérante du maire du palais d'Austrasie en battant les Neustriens à plusieurs reprises en 716, 717 et 719. Charles devient donc seul maire du palais et seul maître du royaume franc. Mais il conserve néanmoins un roi mérovingien, ce sera Thierry IV, qui régnera de 721 à 737. Cependant, quand celui-ci mourra, il ne sera pas remplacé. Dès lors, Charles Martel va se consacrer au renforcement du royaume franc. Le principal danger venait du sud-ouest. L'Aquitaine était pratiquement indépendante sous le duc Eudes, et surtout, le royaume franc était en butte à la menace arabe. En 711, l'Espagne était conquise, en 721, c'était le siège de Toulouse, et en 725, l'occupation de la Septimanie, autrement dit le Languedoc actuel. Nous arrivons à la date essentielle, 732. À cette date, le gouverneur arabe lance un raid contre la Gaule du sud et du sud-ouest. Il se dirige d'abord vers Bordeaux, puis vers Tours. Il arrive à Poitiers, où il réussit à incendier Saint-Hilaire. Mais le 25 octobre 732, l'armée franque intervient et les Arabes sont battus près de Poitiers, sur la voie romaine, vers Tours, probablement à Mousset. Cette victoire de Charles Martel est très importante, car elle va lui apporter un prestige considérable et, avec lui, à la dynastie des maires du palais qu'il représente. De plus, évidemment, cette victoire a une portée plus générale, c'est un coup d'arrêt à l'expansion musulmane et, par contre-coup, elle va entraîner la soumission temporaire de l'Aquitaine. Cependant, ce n'est pas une victoire totale puisque la Septimanie, en particulier, reste aux musulmans et elle va leur servir de base de départ contre le royaume franc. Signalons aussi que cette bataille a été remportée probablement grâce à la cavalerie franque, qui fait ici l'une de ses premières apparitions historiques. Avec Charles Martel, l'expansion franque va se manifester également dans d'autres directions. Par exemple, dans le sud-est, entre 734 et 738, vous avez une série d'expéditions arabes en Provence et à chaque fois des ripostes de Charles Martel qui aboutissent à la soumission de la Provence, qui auparavant était également dissidente. Dans le nord-est, c'est la Germanie, et cette région avait profité du désordre pour échapper à l'influence franque. C'est le cas en particulier des Bavarois. Ici, Charles Martel développe deux types d'actions. D'abord une action militaire, notamment contre les Bavarois, et d'autre part une action religieuse qui se traduit par des campagnes d'évangélisation. L'homme important dans ce domaine, c'est Saint Boniface, autrement dit Winfried, un missionnaire d'origine anglo-saxonne, qui meurt d'ailleurs assassiné en 754. Pourtant, les relations de Charles Martel avec l'Église étaient plutôt mauvaises, car il a procédé à de nombreuses confiscations de biens ecclésiastiques pour alimenter le réseau de fidélité qui fondait sa puissance militaire. Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'en reparler à propos de la vassalité. Mais Charles Martel ne prendra jamais le titre de roi. C'est son fils qui va officialiser la dynastie. Quand il meurt en 741, d'ailleurs, le royaume franc est partagé entre ses deux fils, Carloman et Pépin le Bref. Mais Carloman va se retirer en 747, il va se faire moine au Mont Cassin, si bien que Pépin le Bref va rester le seul maître du royaume franc en tant que maire du palais. D'ailleurs, en 743, Carloman et Pépin avaient installé un dernier roi mérovingien, Childéric III. Nous en arrivons donc à l'année 750, au cours de laquelle Pépin s'adresse au pape Zacharie et lui pose la question : qui doit être roi, celui qui en a le titre ou celui qui exerce le pouvoir ? Et le pape répond évidemment : celui qui exerce le pouvoir. Donc, en 751, Pépin dépose le dernier roi mérovingien, Childéric III, qui est enfermé dans un couvent, et il se fait élire par l'Assemblée des Francs, et même sacré par des évêques francs, peut-être par Boniface notamment. Le sacre des rois est d'origine biblique, et il était déjà en usage chez les Visigoths depuis le roi Wamba, qui s'est fait sacrer en 672. Le sacre donne évidemment un caractère religieux à la royauté. D'ailleurs, les desseins de Pépin vont être favorisés par les difficultés du pape, qui se trouve en butte aux attaques des Lombards, dont le roi à cette époque est Estolphe. Et le nouveau pape, Étienne II, vient en 754 en Gaule pour demander l'appui des Francs contre les Lombards. Pépin est réticent car les relations des Francs avec les Lombards sont bonnes depuis très longtemps. L'entrevue entre le pape et le roi a lieu à Ponthion, près de Vitry-le-François, et finalement, le roi accepte d'aider le pape en échange d'un nouveau sac. Et par conséquent, le pape sacre à nouveau Pépin ainsi que ses deux fils, Carloman et Charles. Nous avons là le point de départ d'une alliance entre les Carolingiens et le Saint-Siège, qui est une constante de l'histoire franque du 8e et du 9e siècle. Pour honorer sa promesse, donc, Pépin se lance dans des campagnes contre les Lombards. En 754 et 756, et il fait don au pape des terres reconquises, en particulier Ravenne et toute une série de villes sur l'Adriatique. De plus, il y aura de nombreuses campagnes dans d'autres régions, toujours les mêmes, vers le nord-est contre la Bavière et contre les Saxons, vers le sud-ouest, reconquête de la Septimanie sur les musulmans et soumission de l'Aquitaine entre 760 et 768. En 768, c'est la mort de Pépin, et à cette date, le royaume est à nouveau partagé entre ses deux fils, Charles et Carloman. Mais, heureusement si l'on peut dire, en 771, c'est la mort de Carloman et donc la réunification entre les mains de Charles, qu'on dira plus tard Charles le Grand, c'est-à-dire bien entendu Charlemagne, Charlemagne, figure de proue de la dynastie carolingienne. J'en arrive donc à ma deuxième partie consacrée au règne de Charlemagne. Du point de vue événementiel, ce règne est marqué par des guerres et des campagnes continuelles. Tous les ans, au mois de mai, le roi convoque son armée dans un lieu différent selon les campagnes. Et Charles profite de la réunion de tous les grands personnages du royaume pour tenir une assemblée générale. En principe, d'ailleurs, tous les hommes libres du royaume sont convoqués, car le service militaire est obligatoire et il est extrêmement lourd. Dans la pratique, il y a une campagne tous les ans et de très nombreux soldats manquent à l'appel et on observe même une épidémie de désertion au moment des moissons. Si bien que vers la fin de son règne, en 807-808, Charlemagne sera amené à limiter l'obligation militaire aux possesseurs d'au moins 4 manses, c'est-à-dire 4 exploitations agricoles, les autres devant se grouper pour équiper et envoyer un soldat. Les campagnes de Charlemagne conduisent donc son armée aux 4 coins de l'Empire. Je vais donc adopter une division géographique qui sera plus facile qu'une division chronologique. Premier point, les campagnes en Italie. En 770, Charles avait épousé Désirée, fille du roi des Lombards, Didier. Il s'agissait bien entendu d'un rapprochement politique avec ce peuple. Mais en 771, le mariage tourna court et Charles répudia sa femme. En même temps, à la mort de Carloman, Charles s'emparait du royaume de son frère et sa veuve et ses deux fils se réfugient à Pavie. De plus, en 772, c'est la mort du pape Étienne III et l'élection d'Adrien, Adrien Ier, qui est un ennemi des Lombards. Le roi des Lombards occupe donc des territoires pontificaux et le pape fait appel à Charlemagne. Effectivement, Charlemagne va se rendre en Italie à la fin de 773 et faire le siège de Pavie, capitale des Lombards. En 774, c'est la chute de Pavie et la disparition du royaume des Lombards. Charles prend les titres de roi des Lombards et de patrice des Romains. Mais en pratique, il faudra encore plusieurs interventions militaires de Charlemagne en Italie pour réétablir son autorité de façon définitive. L'action de Charlemagne en Italie est couronnée par un double succès: disparition des royaumes qui pouvaient être un dangereux concurrent, et d'autre part, renforcement de l'alliance traditionnelle des Francs avec la papauté. On peut même parler d'ailleurs de tutelle du roi franc sur la papauté, puisque Charles, à partir de ce moment, pratique de constantes interventions dans le territoire pontifical. Deuxième point, les campagnes en Aquitaine et en Espagne. Elles furent moins heureuses. En 769, l'Aquitaine se révoltait à nouveau, alors qu'elle venait d'être soumise par le défunt roi Pépin. Elle se révolte sous la direction de Vefre, fils de Hunald. Et bien entendu, les Aquitains profitent du partage de l'Aquitaine entre les deux rois pour se révolter. Mais c'est Charles seul qui va écraser la révolte, Carloman ayant refusé de se joindre à lui. Cependant, vous avez toujours une région qui résiste. Il s'agit du duché Vascon entre Garonne et Pyrénées. C'est une zone d'insoumission depuis très longtemps et elle va causer des problèmes très graves à Charlemagne. Car en 778, Charlemagne entame une campagne en Espagne. Et je vais vous demander, à propos de cette campagne, de prendre le texte intitulé « Campagne de Charlemagne en Espagne et mort de Roland ». Il s'agit d'un texte d'Eginhard, un homme qui est né vers 770 dans la région du Main inférieur, qui a été présenté à Charlemagne dans les années 791-796. C'est, semble-t-il, au physique un petit homme chétif, discret et travailleur. Alcuin, d'ailleurs, le surnommait le petit nard, nanar, si vous voulez, nardulus en latin. En tout cas, il est resté pendant 20 ans dans l'intimité de Charlemagne. Et il a rédigé la Vita Caroli, vie de Charlemagne, écrite de 817 à 821, qui est notre meilleure source concernant le règne de Charlemagne. Alors ici, il nous parle dans ce texte de la campagne de Charlemagne de 778. Donc Charles attaque l'Espagne. En fait, il semble qu'il soit intervenu à l'appel d'un chef musulman qui était en conflit avec l'émir de Cordoue. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais Eginhard nous dit qu'il reçut la soumission de toutes les places et de tous les châteaux, aux lignes 5 et 6. Mais, en fait, ce que ne dit pas Eginhard, c'est qu'il a échoué devant Saragosse, dont il a fait le siège. Il était obligé de lever ce siège à l'approche de l'émir de Cordoue. En revanche, il s'est emparé de Pampelune, ville occupée par les Vascons, autrement dit, probablement, les ancêtres des Basques. Ainsi s'explique la phrase d'Eginhard, ligne 8, « Il eut au retour l'occasion d'éprouver quelque peu la perfidie basque. » Ensuite, vous lisez le texte, bien entendu, Eginhard nous raconte de façon très frappante la manière dont les Vascons, autrement dit les Basques, bien entendu, ont dressé une embuscade au col de Roncevaux en attaquant l'arrière-garde de Charlemagne. Et d'ailleurs, Eginhard explique très bien la situation. Ligne 18, les Basques avaient pour eux, en cette circonstance, la légèreté de leur armement et la configuration du terrain, tandis que les Francs étaient desservis par la lourdeur de leurs armes et leur position désavantageuse. Donc, il s'agit en fait de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une guerre de guérilla, et les hommes du terrain, les montagnards, remportent facilement cette victoire contre la lourde armée de Charlemagne. Le texte se termine par la liste des principales victimes, ligne 21. Dans ce combat furent tués le sénéchal Égillard, le comte du palais Anselme et Roland, duc de la Marche de Bretagne, ainsi que plusieurs autres. Alors, évidemment, parmi ces victimes, l'une est particulièrement célèbre, c'est Roland, duc de la Marche de Bretagne, c'est-à-dire responsable de cette région frontalière proche de la Bretagne. Et c'est évidemment un grand personnage et une victime particulièrement prestigieuse. La légende va s'emparer de cet épisode. Et c'est de là, c'est de ce texte, semble-t-il, qu'est née la chanson de Roland, rédigée à la fin du XIe siècle en dialecte normand. Mais, bien entendu, les auteurs de la chanson de Roland, ou l'auteur de la chanson de Roland, va reprendre des éléments historiques, mais va y ajouter de nombreux éléments légendaires. Par exemple, il va faire de Roland le neveu de Charlemagne, ce qui n'est absolument pas prouvé, et il va ajouter le personnage d'Olivier et aussi celui du traître Ganelon. Quant aux ennemis, les Basques n'étant pas assez prestigieux, les adversaires deviendront les Sarrasins. Et effectivement, la campagne de 778 était d'abord dirigée contre eux. En tout cas, cet épisode dramatique a un retentissement considérable, car c'est la seule véritable défaite connue par Charlemagne. Donc, cette défaite arrête effectivement la progression de Charlemagne dans cette région. Ses efforts par la suite seront beaucoup plus limités. Il conquérera des villes de la côte est de l'Espagne, Gérone en 785, Barcelone en 803, Tarragone en 808, et par la suite, il organisera dans cette région la Marche d'Espagne, une marche militaire qui protégera le royaume carolingien sur son flanc sud. Quant à l'Aquitaine, elle deviendra elle-même un royaume secondaire, comme d'ailleurs l'Italie, et sera confiée à l'un des fils de Charles, Louis. Mais le problème des Vascons reste entier. Passons maintenant, troisième point, aux campagnes en Germanie, qui furent les plus nombreuses et les plus dures. Il s'agit d'abord de la conquête de la Saxe, qui occupa une grande partie du règne de 772 à 804. La Saxe, c'est-à-dire la Basse-Saxe actuelle, qui est un land de république fédérale. Les Saxons sont des voisins redoutables et ils font de fréquents raids dans les régions orientales de l'Empire. En 772, Charlemagne fait une première campagne et il réussit à s'emparer de l'Irminsul, près d'Eresbourg, qui est le lieu de culte le plus sacré des Saxons, les Saxons étant bien entendu des païens. C'est là qu'étaient déposés également leurs trésors. Mais cela ne suffit pas à les mater, et de 772 à 785, mis à part quelques exceptions, vous avez une campagne chaque année. Et parallèlement, un effort d'évangélisation qui se traduit notamment par la création d'évêchés. Car la conquête va de pair avec la christianisation qui est une christianisation forcée. Il faut dire que ces campagnes n'ont pas le résultat escompté car chaque hiver, les Saxons reprennent leur indépendance et la résistance farouche est animée par le chef Widukind. Si bien qu'en 785, Charlemagne décide de passer l'hiver en Saxe. Et effectivement, cette nouvelle tactique porte ses fruits puisque Widukind se rend et accepte le baptême en 785. Ensuite, vous avez une loi tout à fait draconienne qu'on appelle Capitulatio de Partibus Saxoniae. Il s'agit de réprimer toute manifestation du paganisme et d'ordonner le baptême obligatoire des enfants. Mais les Saxons ne vont pas supporter longtemps cette situation, ils se révoltent à nouveau en 793. D'autres campagnes, bien entendu, suivront. En 797, Charlemagne change de politique, c'est l'édit de pacification. À ce moment-là, la Saxe est soumise au régime général, c'est l'abrogation de la loi précédente. Cependant, la résistance n'est pas terminée, et en 804, Charlemagne ordonnera la déportation d'une partie de la population. Finalement, le résultat, c'est bien la conquête de la Saxe et sa christianisation, mais à un prix très élevé. Il y a bien entendu d'autres campagnes dans d'autres régions de Germanie, par exemple la Frise du Nord, dans laquelle vous avez une révolte en 784 qui est soumise en 785 en même temps que la Saxe. En Bavière, le duc Tassilon se révolte à plusieurs reprises. Finalement, en 788, il est dépossédé et enfermé dans le monastère de Jumièges. La Bavière est annexée, de même que le duché de Carinthie, que Tassilon avait placé sous le protectorat bavarois. Parlons également des Avars, un peuple qui s'était installé dans la région du Danube à la suite des Huns depuis la fin du VIe siècle. Il est écrasé au cours de trois campagnes entre 791 et 796 et finalement La victoire complète date de 799. Enfin, vous avez, contre le Danemark, la création de la Marche des Normands, destinée à combattre les Vikings qui commencent à faire leur apparition à la fin du 8e siècle, au début du 9e. Et d'ailleurs, le nom même de Danemark signifie « Marche des Danois ». C'est un nouveau danger qui ne va pas tarder à se manifester de façon extrêmement grave. Faisons maintenant le bilan. Le bilan militaire est largement positif. Charlemagne a englobé dans son royaume tout l'Occident chrétien, moins la Grande-Bretagne et l'Irlande. Et il a agrandi par la force vers l'Est la nouvelle frontière de ce côté, étant située sur l'Elbe et sur le Danube. Il était naturel que devant une telle puissance germa l'idée d'une restauration impériale, en particulier dans l'entourage lettré du roi. Cette restauration sera favorisée par un certain nombre d'événements dont nous parlerons dans la leçon suivante aux alentours de l'an 800. Bien entendu, nous n'avons abordé ici qu'un aspect du règne de Charlemagne, l'aspect militaire. Nous étudierons dans d'autres chapitres les aspects administratifs, religieux, économiques et sociaux, notamment. En 800, au moment de son accession à l'Empire, Charles avait 58 ans, et au cours de ses dernières années, il fixe d'abord sa capitale à partir de 794 à Aix-la-Chapelle, qui est pour la première fois une capitale fixe, alors que jusque-là, le roi se déplaçait de ville en ville. Et il meurt finalement à 72 ans en 814. Et bien entendu, la succession d'un tel personnage est extrêmement difficile. Nous en traiterons également dans un autre chapitre.